europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromi της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Qu'a changé le coronavirus en Europe? Eh bien, par exemple, la Commission européenne va emprunter 750 milliards d'euros au nom de l'Union et c'est une petite révolution. Mais face à l'urgence de la reprise économique, le pacte vert sera-t-il sauvegardé ou sacrifié? Et encore, à l'issue de cette pandémie, quelle place pour l'Europe dans le monde? Autrement dit, l'Europe d'après, nous lançons le débat avec 6 eurodéputés, évidemment par téléphone compte tenu des mesures de précaution qui ont toujours cours. Ces eurodéputés sont les chefs des délégations françaises au Parlement européen. Je vous les présente. François-Xavier Bellamy pour les Républicains, Manuel Bompard, la France Insoumise, David Cormon, Europe Écologie Les Verts, Sylvie Guillaume pour le Parti Socialiste, Jérôme Rivière, le Rassemblement National et Stéphane Séjourné, La République En Marche. Mais pour éviter la confusion et pour la clarté des échanges, nous avons préféré scinder ce débat de 50 minutes en deux débats. Le premier réunira donc François-Xavier Bellamy, les Républicains, Manuel Bompard, la France Insoumise, Soumise et David Cormon, Europe Écologie Les Verts, et le second bien sûr Sylvie Guillaume, Parti Socialiste, Jérôme Rivière, Rassemblement National et Stéphane Séjourné, La République En Marche.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquel.
Place au premier débat, François-Xavier Bellamy, les Républicains, Manuel Bompard, la France Insoumise et David Cormon, Europe Écologie Les Verts. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Après la crise sanitaire qui n'est pas totalement finie, n'enterrons pas trop tôt le virus, le plan de relance de la Commission d'un montant de 750 milliards d'euros financé grâce à un emprunt européen, un emprunt commun qui aura pour conséquence de mutualiser la dette à un niveau européen, est présenté par beaucoup de monde comme une petite révolution dans la marche de l'Union européenne, car jusqu'alors, la plupart des pays européens, à commencer par l'Allemagne, avaient toujours refusé cette possibilité. Et il a fallu un accord entre Angela Merkel et Emmanuel Macron pour que cela devienne une réalité. Alors, à tous les trois, je vous demandais si c'est une petite révolution et si c'en est une, est-ce qu'elle va dans la bonne direction. François-Xavier Bellamy, une petite révolution, un tournant dans la construction européenne ou pas?
C'est en tout cas, je crois, un vrai basculement parce que, vous l'avez dit, effectivement, jusque-là, l'Union européenne était financée par la contribution des États membres. Pour la première fois, la Commission européenne pourrait aller elle-même sur les marchés pour lever de la dette au nom de l'Union, c'est-à-dire en notre nom à tous. C'est donc un point de basculement important. Certains parlent d'un moment hamiltonien, du nom de Hamilton, qui est celui qui avait poussé à la création des États-Unis d'Amérique en conduisant les États à mutualiser une partie de leur dette. Et je crois que les citoyens, notamment en France, n'ont pas peut-être assez conscience de l'ampleur de ce basculement dans le projet européen. Oui, il me semble que cette décision pose de très nombreux problèmes, et le premier d'entre eux, c'est que personne ne dit aujourd'hui, et personne ne peut dire, qui va rembourser cette dette et quand. Or, une dette, c'est un engagement qu'on prend pour l'avenir. De manière très ironique, ce plan s'appelle Next Generation EU, l'Europe de la future génération. Mais si nous ne savons pas comment cette future génération va rembourser la dette, c'est plutôt un moyen de reporter sur elle le fardeau des problèmes que nous n'aurions pas su régler aujourd'hui. Moi, je crois que l'Union européenne doit agir pour permettre de relancer nos économies. Ça passe en particulier par un changement complet de logiciel dans le rapport à la mondialisation.
On va y venir, François-Xavier Bellamy.
Mais je crois que cet emprunt-là, si on ne change pas ce logiciel, bien, il aura pour effet d'abord de relancer l'activité d'autres régions du monde au détriment des générations.
C'est évidemment une question essentielle qu'on va se poser. Manuel Bompard, la France Insoumise. Alors, une révolution, François-Xavier Bellamy a parlé d'un moment hamiltonien. Certains ont dit un moment rooseveltien sous forme d'un New Deal. Que diriez-vous?
Bah, c'est clair que c'est un élément nouveau. C'est un élément nouveau, mais qui me semble, s'il peut aller dans le bon sens, parce qu'il peut permettre de faire vivre la solidarité entre les États membres au sein de l'Union européenne, il pose aussi un certain nombre de difficultés. Des difficultés sur le montant, qui est largement insuffisant. Alors comme ça, on a l'impression que 700 milliards d'euros, c'est énorme.
Mais il n'y a pas que 750 milliards d'euros. Il y a 540 milliards déjà qui ont été débloqués par la BEI, la Commission, dans l'urgence. Et puis il y a aussi les 1000 milliards d'euros que va lâcher la Banque Centrale Européenne. Donc c'est un élément. Mais l'originalité, c'est que c'est un emprunt. Un emprunt européen.
Vrai. c'est vrai que c'est l'originalité, c'est que c'est un emprunt européen. Maintenant, dans les chiffres que vous avez accumulés, certains ne sont pas de l'argent frais, en l'occurrence, c'est plutôt des garanties d'emprunt. Je pense aux premiers 500 milliards d'euros dont vous avez parlé. Je pense qu'il y a un problème sur le volume qui est insuffisant. Le Parlement européen a demandé 2000 milliards d'euros pour un plan de relance. On en est loin, malheureusement. Et dans le même temps, la Commission a présenté un budget pour les années qui viennent, qui là aussi est de 1100 milliards d'euros. C'est très éloigné, en tout cas assez éloigné de ce que demandait le Parlement européen, c'est-à-dire 1300 milliards. Donc je pense qu'on a un problème sur le volume. Et puis surtout, on a un problème sur comment vont être utilisés ces fonds. Parce que si on peut tous être attachés à l'idée d'une solidarité européenne, la difficulté, ça pose quand même une difficulté de souveraineté, puisque cet argent va être attribué par la Commission européenne sur la base de critères qui restent aujourd'hui assez incertains. Or, tout le monde sait que la Commission européenne est aujourd'hui pas une instance démocratique au sein de l'Union européenne. Donc je pense qu'il y a des problèmes de volume, il y a des problèmes démocratiques, il y a des problèmes de conditionnalité. Est-ce que cet argent va être attribué en échange de conditions? Or, il est accolé à ce qu'on appelle le semestre européen. Or, quand vous regardez aujourd'hui les critères qui vont être affichés, bien sûr que c'est d'abord les pays les plus en difficulté qui vont pouvoir recevoir ces fonds, mais il semble que ce soit en échange de trajectoires économiques particulières, ce qui dans le langage européen veut dire de mesures d'ajustement, donc de réformes qui visent par exemple à réduire la dépense publique, à réduire le code du travail, et ça c'est nécessairement pour un membre de la France insoumise comme moi un élément qui m'inquiète.
Alors vous avez bien dit, il semble, car on n'en est encore pas totalement sûr. David Cormann, Europe Écologie Les Verts, un mouvement hamiltonien, un mouvement rooseveltien, une petite révolution dans la construction européenne ou pas?
Oui, c'est un tournant, mais ce qu'il faut, moi je suis assez d'accord avec ce qu'a dit en gros Manuel Bompard à l'instant. C'est-à-dire que cette histoire mérite ni excès d'honneur, ni indignité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est une rupture quand même avec l'état d'esprit « I want my money back ». Vous savez, c'est la phrase de la première...
La célèbre phrase.
Oui, de Margaret Thatcher, la première ministre britannique, il y a quelques années, où un certain nombre d'États avaient une conception de l'Union européenne de dire « moi, ça me va du côté que mes intérêts à moi et que mon argent revient ». Là, c'est la première fois, c'est une concession importante de l'Allemagne qui a été faite de rompre avec cette idée-là. La mutualisation de la dette, ça signifie que ce n'est pas les pays qui vont bénéficier de cet argent qui vont directement rembourser. Ce sera la mutualisation et le collectif qui va rembourser. Ça, c'est quand même une rupture. Après, comme ça a été dit, il y a beaucoup de problèmes là-dedans. C'est que, en gros, on dit 750 milliards, en vrai, c'est 500 milliards d'investissement. Et 250 milliards, c'est du prêt, donc c'est un peu différent. Et 500 milliards d'investissements...
Oui, pour la clarté, il y a 500 milliards, on va dire, de subventions et 250 milliards de prêts garantis.
Alors que moi, ce qui intéresse, c'est plutôt les subventions. Je ne dis pas que les prêts garantis, ça ne sert à rien, mais ce qui est intéressant, en tant que collectivité, c'est la capacité d'investir, de mettre de l'argent sans retour sonnant et trébuchant. Et là, de ce point de vue-là, il y a plusieurs sujets. Mais Manuel Bompard l'a dit, c'est qu'il y a deux débats aujourd'hui. Il y a l'histoire des 500 milliards et il y a l'histoire de ce qu'on appelle le budget pluriannuel. Le budget pluriannuel de l'Union européenne, moi je suis à la commission budget, on est en train de négocier plutôt à 1003, voire 1350 milliards d'euros sur 7 ans.
Oui, on grappillait, hein, un milliard par-ci, un milliard par-là.
Oui, mais ce qui est dingue d'ailleurs, mais ça c'est un autre débat sur la taille de l'Union, les cacahuètes qu'on discutait. Bon. Et donc là, on nous dit il y a 500 milliards, mais du coup, ça va rejaillir sur le maintien assez bas, si on en reste là, du budget pluriannuel. La différence, c'est que le budget pluriannuel, ce sont les parlementaires européens qui décident de les attribuer, cet argent-là. Or là, pour l'instant, les 500 milliards, ce n'est pas les représentants du peuple européen qui vont décider où ils vont. Ça va être directement la Commission. C'est ce qu'évoquait Manuel Bompard, notamment avec l'histoire du semestre européen. Et là, pour moi, il ne faudrait pas que cet élan de mutualisation de la dette se traduise par de la moins-disance en matière démocratique. Ça, c'est très important. Parce qu'on sait bien qu'il y a un problème démocratique au niveau de l'Union européenne. Et donc, si on veut un saut qualitatif au niveau de la démocratie européenne, il faut avoir plus de capacité d'investissement. Donc ça, c'est positif. Plus de capacité de mutualiser de la dette, c'est positif. Mais il faut aussi un saut qualitatif en termes du rôle du Parlement. Et dernier point, quand on sait comment elle va être remboursée, ces 500 milliards, contrairement à ce qui était dit. Ça va être remboursé par le budget pluriannuel. Et là, il y a un deuxième enjeu pour moi qui est majeur, c'est l'enjeu fiscal. L'Union européenne doit être en capacité de lever l'impôt c'est le débat sur les ressources propres.
Exactement, à moins que l'Union européenne se trouve des ressources propres. C'est évidemment une autre possibilité, une autre option.
Aujourd'hui, ça bloque. C'est-à-dire que les mêmes États qui sont plutôt radins sur le budget pluriannuel et sur la mutualisation de la dette sont ceux qui veulent pas que l'Union puisse lever l'impôt. Pourtant, les impôts...
Ils ne veulent pas pour l'instant, David Cormon. Peut-être que c'est en train... Ça va changer dans les mois, dans les semaines, dans les mois à venir.
Je l'espère, grâce au rôle du Parlement. Parce que le Parlement, le grand combat qu'il va y avoir dans les semaines qui va venir, le seul moment où le Parlement il peut faire pression sur la Commission et sur le Conseil, c'est s'il accepte ou pas de voter le budget pluriannuel.
D'accord.
Et là, il va falloir faire de beaucoup de détermination pour tenir là-dessus.
Il y a un mot que vous n'avez pas employé, mais vous avez expliqué, vous avez un peu tourné autour, c'est le mot solidarité. C'est que ce plan de relance de 500 milliards de subventions, il ne sera pas remboursé par les États qui en bénéficieront, ce sera une dette européenne, ce qui remet la solidarité au cœur du projet européen. Est-ce que c'est pas là la grande nouveauté, en tout cas le retour des fondamentaux de l'Union européenne, François-Xavier Bellamy pour Les Républicains?
Bien sûr, on peut se réjouir que l'Union européenne fasse preuve de solidarité, on peut d'autant plus s'en réjouir qu'au début de la crise, elle n'en a pas forcément toujours donné l'image. Et je crois que c'était important que nous montrions...
C'était l'Union européenne ou ce sont les Européens qui n'ont pas donné l'image d'une grande solidarité?
Les Européens, en tous les cas, c'est clair qu'en Europe, on n'a pas su vivre vraiment au moment de la pandémie, au plus fort de la crise, notamment parce qu'on manquait des moyens de cette solidarité. On n'a pas su montrer un lien fort.
Cela et peut-être dit, aussi parce que la santé et le sanitaire n'est pas une compétence européenne.
C'est vrai, il n'en reste pas moins que quand le gouvernement français, par exemple, a bloqué des masques qui étaient destinés à l'Espagne, à l'Italie, à la frontière française et les a réquisitionnés alors qu'ils venaient de Suède, il est très clair qu'on a donné un signal assez fort et assez violent, une forme d'égoïsme qui allait au-delà même de notre légitime action, puisqu'il s'agissait de retenir des produits qui ne nous étaient pas destinés. Donc il y a eu des signes assez forts et qui ont été très douloureusement perçus dans les pays les plus directement touchés de cette incapacité à une vraie solidarité. Je pense que c'est
mais là, c'est
aujourd'hui qu'on fasse preuve de solidarité.
Mais c'est en train
de changer. Je voudrais attirer votre attention sur la complexité du sens du mot solidarité. Solidarité, ça veut dire générosité. Solidarité, ça veut dire aussi le lien qui nous attache les uns aux autres, et notamment, effectivement, du point de vue budgétaire, si nous choisissons d'emprunter ensemble. De ce point de vue-là, je voudrais revenir sur ce que disaient mes collègues juste avant. Moi, je crois que si on admet le principe d'un emprunt, il ne faudra pas demain se plaindre des effets, des causes dont on se sera félicité. J'ai été élu local pendant plus de 10 ans, j'ai célébré des dizaines de mariages civils. Pendant très longtemps, on lisait dans les mariages civils ce passage du Code civil qui concerne les dettes. Quand vous empruntez avec votre conjoint, toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. Et il est absolument clair qu'un emprunt commun va en effet être adossé à des exigences en matière de réforme, en matière de réforme budgétaire, et que bien sûr que nous sommes contents de pouvoir asseoir aujourd'hui notre capacité d'emprunt sur la crédibilité d'autres pays européens qui font des excédents budgétaires depuis très longtemps, nous qui sommes structurellement en déficit depuis près de 50 ans maintenant, nous sommes très heureux de cette bonne nouvelle, mais évidemment que demain, ces pays qui nous prêtent en quelque sorte leur crédibilité vont venir exiger de nous, via la Commission, que nous fassions des réformes. Et moi, je ne veux pas de cette Europe-là. Je crois que la règle des 3%, elle a coûté très cher à l'Union européenne.
Elle a volé en éclats en 48 heures pendant cette crise, il faut quand même le souligner.
Bah heureusement qu'elle a été suspendue, parce que c'était le moment ou jamais où il fallait évidemment investir pour faire face à la crise et notamment à la pandémie. Et que si l'Union européenne s'était arc-boutée sur cette règle, elle aurait semblé absurde et totalement décalée. Et il me semble que je voudrais juste attirer l'attention de mes collègues et de nos auditeurs sur ce sujet. Si nous acceptons le principe de cet emprunt, nous ne pouvons pas ne pas accepter la solidarité budgétaire qui va avec.
Alors, pour reprendre l'image que vous avez employée de l'adjoint maire que vous étiez et qui a marié beaucoup de monde, il y a aussi, on se marie pour le meilleur et pour le pire, on prend un risque.
Je veux bien qu'on défende la solidarité, peut-être que tout le monde sera enthousiaste de cet emprunt. Je dis juste que vous ne pouvez pas vouloir le beurre et pas le coût du beurre que vous achetez. En l'occurrence, si vous demandez à des États qui sont crédibles budgétairement de venir emprunter avec vous pour vous prêter en quelque sorte leur crédibilité, demain, vous devez vous attendre à ce qu'ils viennent contrôler d'un peu plus près la manière dont vous allez dépenser l'argent qui vous est prêté par ce biais. Et ça ne peut pas ne pas être ainsi.
François-Xavier Bellamy, on a bien compris un petit peu le risque que l'on prend à avoir une Europe un peu plus intégrée. Comment réagit Emmanuel Bompard, la France insoumise? Évidemment, plus on s'intègre, plus évidemment on est obligé de prendre des décisions en commun, et plus évidemment, eh bien, il peut y avoir le regard des autres sur sa propre politique. Ça s'appelle un peu le fédéralisme, un petit pas de plus vers le fédéralisme. Est-ce que, qu'en pensez-vous, Emmanuel Bompard, pour la France insoumise, c'est une bonne chose ou pas?
Non, mais le problème est de savoir qui décide. Qui décide de ce type de décision? Je pense que la France participe avec d'autres États, que ce soit à l'échelle européenne ou même à l'échelle mondiale, parfois à mettre en commun, à s'engager dans des politiques de solidarité, à décider de construire des normes communes. C'est le cas par exemple quand on s'engage dans l'Organisation internationale du travail, pour donner cet exemple, ou quand on travaille sur les accords de Paris. C'est bien des cadres internationaux dans lesquels on décide de prendre des engagements. Le problème, c'est qui décide de mutualiser une partie de notre argent, de mutualiser une partie de nos objectifs, ou une partie de nos normes. Et ce qui me pose problème dans ce qui est décidé en ce moment, c'est qu'effectivement la France décide d'apporter une contribution à des politiques de solidarité, que d'autres pays le font, mais qu'à aucun moment, pour l'instant en tout cas, la représentation nationale ou la représentation des citoyens au niveau européen, c'est-à-dire le Parlement européen, n'ont le pouvoir de décider de cette mise en commun
mais
et de
l'attribution
de ces fonds.
Vous allez voter que... évidemment.
Nous allons sans doute voter sur la déclinaison d'un certain nombre de décisions qui ont été annoncées en mesure en dispositif européen au sein du Parlement, mais en l'occurrence l'attribution des fonds aujourd'hui, comme on le disait et comme le disaient aussi mes deux collègues tout à l'heure, elle va dépendre exclusivement de la Commission, sur la base de critères sans doute sur lesquels nous aurons voté.
Mais la Commission défend l'intérêt général, c'est le principe même de la Commission européenne. Vous le remettez en cause? Je ne sais pas, je vous pose la question.
C'est spécialement mon point de vue.
Voilà. C'est dans les traités. C'est dans les traités.
Oui, mais vous savez aussi que c'est des traités que je conteste. Donc je pense que là il y a une vraie difficulté. Alors après, de savoir si quand on emprunte, on doit aussi faire des sacrifices en termes de politique sociale ou en termes de services publics, par exemple. Là, c'est un débat économique. Moi, je considère que les politiques d'austérité qui ont été imposées à un certain nombre de pays en Europe n'ont pas contribué à faire en sorte que ces pays deviennent davantage solvables. Au contraire, parce que ces politiques-là, elles ont comprimé l'activité économique, elles n'ont pas permis que ces pays s'en remettent. Il reste à voir, et il suffit de regarder la situation de la Grèce, qui maintenant, depuis plusieurs années, est dans une situation économique très difficile, et les différents plans d'austérité qui lui ont été imposés n'ont pas permis, à mon avis, de lui permettre de sortir la tête de l'eau. Donc, je ne pense pas que ça soit la bonne solution. Je suis favorable à des initiatives de solidarité au sein de l'Union européenne. Je ne suis pas favorable à qu'on dise aux gens, on est d'accord pour être solidaire avec vous, mais en échange, vous allez réformer, vous allez réduire vos dépenses en matière de santé, parce que là, on sort d'une crise sanitaire. Je rappelle que la Commission européenne, dans le cadre du semestre européen dont on parle là, elle a, à près de 70 reprises ces 10 dernières années, demandé à ce qu'on coupe dans les dépenses de santé, qu'on privatise une part du secteur de la santé. Et je pense que la crise, elle devrait au moins nous permettre de comprendre que ce n'était pas une très bonne solution et une très bonne idée. Et le dernier point, c'est qu'il me semble que cette dette, il faut poser la question de savoir effectivement comment elle va être remboursée. On parle des ressources propres. C'est bien s'il y a des ressources propres, mais les ressources propres ne couvriront pas l'ensemble et le montant de l'emprunt. Donc il y aura nécessairement un emprunt par le budget, donc de facto par la contribution nationale des États membres. Donc ça va contribuer à alourdir encore leur endettement, et ça me paraît être une difficulté. Je pense qu'un certain nombre de dépenses ont été engagées dans cette crise parce qu'on n'avait pas le choix de faire autrement, mais que ça ne doit pas nous empêcher de faire d'autres investissements à venir, par exemple pour répondre à la crise écologique, par exemple pour répondre aux défis maintenant de la souveraineté industrielle, de rétablir et de relocaliser une partie de l'industrie, et qu'on ne pourra pas le faire si on est écrasé par le poids de la dette. Et donc la question qui est posée, c'est la question de trouver avec la Banque Centrale Européenne des modalités d'annulation d'une partie de cette dette. Parce que si on ne le fait pas, on ne sera pas en mesure de répondre demain aux défis qui vont se présenter devant nous.
Emmanuel Bompard, la France insoumise, merci. Qu'en pense David Cormand? Évidemment, plus de solidarité, eh bien ça a évidemment un certain nombre de contraintes, comme je l'expliquais à l'instant. Quel est le point de vue d'Europe Écologie Les Verts, David Cormand?
Non, la solidarité, pour moi, c'est pas tellement des contraintes, c'est des opportunités. La question, en revanche, c'est comment on la finance. là, on revient sur la question de la fiscalité. En gros, l'Union européenne, c'est un géant économique, c'est un géant commercial, mais c'est un nain fiscal et c'est un nain budgétaire. Et pour moi, l'enjeu des discussions qu'on est en train d'avoir, c'est est-ce qu'on décide de donner à l'Union européenne la capacité de fiscaliser des revenus qui aujourd'hui échappent à l'impôt. Je parle au profit des GAFAM, je pense...
C'est-à-dire la taxation du numérique, par exemple.
Oui, mais c'est pas tout. Les transactions financières. Aujourd'hui, on subit une financiarisation de l'économie. Qui est en mesure de fiscaliser ces revenus de la financiarisation de l'économie, sinon l'Union européenne? À l'échelle de chaque État, on ne sait pas le faire, parce qu'il y a l'évasion fiscale. À l'échelle européenne, on a plus de poids pour le faire. Je pense évidemment à la fiscalité écologique, avec la taxe carbone aux frontières, avec la taxe sur le kérosène. Donc si on décide de le faire...
Alors, la taxe au carbone, il faut quand même dire un petit mot, c'est l'idée de... tous les pays ne respectent pas les mêmes normes écologiques, environnementales. Mmh. L'idée, c'est de, pour être assez clair, taxer des produits venant de l'Asie, par exemple, qui ne respectent pas toutes les normes, les taxer à la frontière de l'Union européenne, de façon à ce qu'il y ait un rééquilibrage un peu commercial et économique.
Oui, mais c'est pas seulement ça, c'est tirer vers le haut les normes environnementales. C'est-à-dire que l'Union européenne, comme je l'ai dit, étant le premier marché du monde, quand vous avez des règles qui vont vers le mieux-disant environnemental et le mieux-disant social, non seulement ça améliore la situation de l'environnement et des salariés sur le territoire européen, mais également en dehors. Et donc c'est ça l'esprit de cette fiscalité européenne. Et si vous avez une fiscalité, vous avez des recettes. Et si vous avez des recettes, vous avez des capacités d'investissement. Sauf qu'aujourd'hui, les États souhaitent garder la main mise sur les politiques européennes. Et donc ça les arrange au fond que 75% du budget européen, ça soit des dotations des États.
Parce que ça nous permet... Mais c'est peut-être en train de changer justement parce que cette dette, il faudra bien la rembourser, on pourra peut-être la rembourser aussi.
Vous dire,
voilà, c'est l'enjeu peut-être politique... en train de changer.
Oui, mais peut-être. Mais aujourd'hui, c'est pas changé. Donc l'enjeu politique de la période, au-delà des 500 milliards dont on parle et dont on parle, c'est le renforcement démocratique du Parlement, c'est la capacité fiscale et budgétaire de l'Union européenne, et comme l'a dit Manuel Bompard, c'est la question des conditionnalités. Au nom de quel modèle de société on fait ces investissements? Est-ce que c'est pour relancer le système tel qu'il est, avec les mêmes règles d'austérité, ou est-ce que c'est pour faire une transition écologique de notre modèle de développement pour garantir la capacité de vivre aux générations futures? Et ça, c'est un vrai débat politique. Le problème, c'est qu'on ne l'a pas au niveau de là où il devrait avoir lieu, c'est-à-dire au niveau du Parlement. C'est la Commission dont vous dites qu'elle est censée garantir l'intérêt supérieur, mais pardon, ceux qui sont les plus légitimes pour décider de cela, c'est le Parlement. Et le Parlement, quand il a donné son avis, il n'a pas dit 500 milliards, il a dit 2000 milliards. Il a donné des conditions au niveau climatique, au niveau de la biodiversité, au niveau social. Et donc le rôle pour moi de la Commission, qui est ni plus ni moins qu'un exécutif en principe, c'est de suivre les préconisations du Parlement européen. Sinon, c'est un déni de démocratie. Donc vous voyez, dans la période, ce n'est pas seulement la question de la mutualisation de la dette qui se joue en termes d'avenir européen. C'est des questions bien plus profondes et bien plus existentielles.
Eh bien, merci à tous les trois. Nous sommes obligés de clore ce premier débat. François-Xavier Bellamy, Les Républicains, Manuel Bompard, La France Insoumise et David Cormand, Europe Écologie, Les Verts. Et tout de suite, trois nouveaux invités, trois eurodéputés, eux aussi chefs de délégation de leur parti au Parlement européen, Sylvie Guillaume pour le Parti Socialiste, Jérôme Rivière pour le Rassemblement National et Stéphane Séjourné pour La République En Marche. Merci encore d'avoir été avec nous.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desescales.
Carrefour de l'Europe, deuxième partie, deuxième débat. Sylvie Guillaume, Parti Socialiste, Jérôme Rivière, Rassemblement National et Stéphane Séjourné, La République En Marche. Bonjour à tous les trois. Afin qu'il y ait une égalité de traitement, nous allons aborder les mêmes sujets qu'avec vos trois collègues qui vous ont précédé. Bien évidemment, le plan de relance de la Commission européenne au lendemain de l'initiative franco-allemande. C'était d'ailleurs l'initiative franco-allemande et la relance européenne, le thème de Carrefour de l'Europe la semaine dernière. Comment faire face à l'effondrement de l'économie européenne, au chômage de masse qui s'installe, le pacte vert menacé ou non par ce plan de relance? Et plus généralement, qu'est-ce que le coronavirus aura changé en Europe et quelle place pour l'Europe dans ce nouveau monde. On va essayer d'aborder tous ces thèmes. En tout cas, on va essayer. Alors, en rentrant dans le vif du sujet, n'enterrons pas trop tôt le virus. Il est toujours présent. Mais ce plan de relance de la Commission d'un montant de 750 milliards d'euros financé grâce à un emprunt européen, un emprunt commun qui aura pour conséquence de mutualiser la dette à un niveau européen, elle est présentée par beaucoup comme une petite révolution dans la marche de l'Union européenne. C'est votre point de vue, Sylvie Guillaume, pour le Parti Socialiste ?
Objectivement, on a franchi une étape assez importante liée à la gravité de la crise que nous traversons. Donc oui, je me félicite que c'est qu'on avance vers une Europe plus politique. Maintenant, il va falloir se donner les moyens de tout ça parce que les annonces sont là, elles vont dans le bon sens. D'ailleurs, elles rejoignent beaucoup des thèmes que mon groupe avait soulignés depuis de nombreuses années. Donc je m'en félicite. Maintenant, il faut savoir comment on va financer tout ça. Et donc on est au cœur maintenant d'un débat sur la composition, la hauteur et la puissance du cadre financier pluriannuel, ce budget pluriannuel que nous avons devant nous, qui pour l'instant est très insatisfaisant. Il faut là réagir très très vite sur le cadre actuel et sur le cadre futur pour se donner les moyens des ambitions européennes.
Alors on comprend bien qu'on est dans une phase de grand mouvement, il se passe des choses, on ne sait pas exactement comment ces 750 milliards vont être répartis, 500 milliards de subventions, 250 milliards de prêts garantis qui font suite aux 540 milliards que les différentes instances européennes ont déjà débloqués pour faire face à l'urgence. On est dans un mouvement, voilà, il y a des négociations en ce moment au niveau du Conseil européen, les différents partis, le Parlement européen votera ce plan, les parlements nationaux auront évidemment un mot à dire, en tout cas pour l'entériner ou pas. Jérôme Rivière, l'Europe est en train de bouger, est-ce qu'elle bouge dans la bonne direction ? Pour le Rassemblement national.
Je pense que c'est une très mauvaise nouvelle et à deux points de vue. D'abord, d'un point de vue institutionnel, sur le plan européen, parce qu'on est en train d'assister à un mouvement de la Commission qui profite de la crise pour tenter de fédéraliser l'Union européenne. Vous l'avez dit, quand on parle de mutualiser les dettes, c'est en fait que c'est l'Europe, l'Union européenne qui va porter les dettes. Ça veut dire que s'il y a des ressources, s'il y a des dépenses, il va falloir les financer. Et ça veut dire, et Thierry Breton l'a dit dès le lendemain des annonces, ça veut dire la création d'un impôt européen. Donc en plus des impôts que les Français, les Allemands, les Belges, les Italiens, enfin tous les pays membres de l'Union européenne payent, ils vont devoir en plus payer un impôt européen. Donc je trouve que c'est une très mauvaise nouvelle, puisque nous ne souhaitons pas, nous, une Europe fédérale, mais une Europe d'État-nation.
Alors face à l'urgence quand même, c'est-à-dire quand même le chômage de masse qui augmente, l'économie qui s'effondre, on parle de moins 10, moins 11% pour le PIB, ne serait-ce que le PIB français. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Attendre, ne rien faire, laisser faire ?
Non, mais c'est une parfaite transition que vous m'offrez, puisque sur ces 500 milliards de subventions, puisque sur les 750 milliards, il y a 500 milliards qui sont des subventions, la France étant contributeur à hauteur environ de 20% du budget, ça coûtera aux Français en garantie environ 100 milliards, donc il nous appartiendra de rembourser 100 milliards alors que nous allons en recevoir 39. C'est-à-dire qu'on va payer de notre poche 60 milliards. C'est pas une façon de relancer l'économie française, c'est donc un effort terrible qui est demandé aux Français pour financer l'économie de l'Union européenne sans se préoccuper du fait que la France a été l'un des pays les plus touchés avec l'Italie, l'Espagne par ce coronavirus. Donc je pense que les solutions qui nous sont proposées sont des solutions qui ont un objectif politique avant tout. Ce sont des solutions qui souhaitent mettre en œuvre cette fédéralisation de l'espace européen. Et ça se fait encore une fois dans le dos des citoyens, parce qu'on vient vous expliquer des choses qui sont relativement difficiles à comprendre. 750 milliards, ce sont des sommes considérables. On a en plus le budget de 1100 milliards à côté. On a une sorte de vertige et de tournis, mais qui est organisé de façon un peu volontaire, parce qu'on a l'impression que ça va être un peu Noël, où de l'argent va être distribué. Mais quand on regarde la façon dont l'argent est distribué, on voit bien que notamment il y en a très peu pour le système de santé, alors que c'est à notre sens l'un des enjeux, c'est de faire en sorte qu'il soit prêt pour la prochaine crise.
Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, Jérôme Rivière, parce qu'aujourd'hui, la santé, le sanitaire, ce n'est pas une compétence européenne, elle va le devenir un peu plus, en tout cas, par l'attribution de 9 milliards pour justement un peu fédérer, coordonner les problèmes de santé au niveau européen. Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction dans ce que vous dites ?
Non, parce que je pense que l'argent, à partir du moment où il y a de l'argent qui arrive, cet argent devrait être donné aux États afin que les États puissent accorder leurs priorités. Aujourd'hui, il va être distribué selon les critères européens, c'est-à-dire en allant au plus près, ça va être distribué à des régions, à des départements. Et donc, c'est une façon, encore une fois, pour cette Commission européenne d'enlever aux États les responsabilités qui sont les leurs. Je pense vraiment qu'il n'y a aucun angle, quel que soit l'angle sur lequel vous approchez ce plan de relance, il est fait vraiment avec une vision politique qui est de mettre un terme à la capacité des États à réagir, alors qu'on voit bien que pendant cette crise, ce sont les États qui ont été les bons réacteurs et qui ont protégé leurs citoyens.
On a bien compris. Stéphane Séjourné et La République En Marche, j'imagine que vous n'êtes pas vraiment d'accord avec ce que vient de dire Jérôme Rivière du Rassemblement National.
Non, évidemment, je suis pas d'accord. Et puis c'est exactement ce qu'on avait poussé depuis quelques semaines au niveau européen. Bon, pour nous, c'est évidemment un plan de relance qui est historique, et puis les citoyens européens attendaient aussi que l'Europe bouge. On a eu beaucoup de critiques sur la première partie de la gestion de crise de la part de la population française, des Européens en général, sur où était l'Europe, avec un vrai questionnement sur notre capacité à pouvoir être réactif dans une crise qui était imprévisible par l'ensemble des pays européens. Là, on a une Europe qui est à la hauteur, qui du coup va mutualiser un certain nombre d'investissements pour l'avenir, et donc c'est pour nous un peu compliqué de critiquer là où il y avait une vraie attente européenne. Je pense que il faut saluer ce plan de relance. Il y a évidemment des ressources à trouver. Je suis d'accord d'ailleurs avec Guillaume, mais il faudra être très attentif au budget européen parce que ça ne peut pas être le grand perdant de cette négociation. Il y aura des ressources propres aussi à trouver avec un plan de relance qui sera proposé par la Commission, qui sera directement injecté pour soutenir l'activité, pour soutenir l'emploi. Et puis ces ressources propres, c'est contrairement à ce que dit Jérôme Rivière aussi, ce sont les multinationales qu'on va taxer. Ils devraient d'ailleurs s'en féliciter. Les multinationales d'ailleurs les moins vertueuses, les GAFA. Il y a quelques pistes sur toutes ces nouvelles recettes.
Oui, il y a une différence entre ressources propres et impôts. Il y a une différence.
Voilà, ce ne sont pas des impôts européens. Les Français ne vont pas avoir sur leur feuille d'impôt une ligne européenne, évidemment. Il s'agit pour nous de faire payer aussi le plan de relance un certain nombre d'entreprises qui aujourd'hui ne contribuent pas à l'intérêt général européen, à l'échelon européen. Et donc pour nous, c'est quand même des avancées. Après, il y a un certain nombre de choses qu'il faudra regarder avec précision. Ça va être d'ailleurs le rôle des parlements nationaux et du Parlement européen, comme vous l'avez dit. Donc ce plan de relance, il est à la fois bien dimensionné, ambitieux, démocratique, puisqu'il sollicitera à la fois l'aval du Conseil, du Parlement européen et des parlements nationaux. Donc tout ça est discuté dans un cadre institutionnel démocratique, et je trouve qu'il faudrait que l'ensemble des formations politiques puissent s'en féliciter. On ne peut pas avoir un double langage, on ne peut pas dire que l'Europe n'est pas au rendez-vous, et à la fois que l'Europe, quand elle est au rendez-vous, joue les côtés fédéralistes. D'ailleurs, je ne pense pas que ce soit un agenda fédéraliste, je pense que c'est plutôt un agenda de relance. Et cet agenda de relance, il était demandé par les citoyens européens.
Sylvie Guillaume, bien que vous ne soyez pas en visioconférence, je vous sens impatiente de réagir. Il y a quand même un mot qu'on n'a pas employé avec ce plan de relance, c'est que, il remet la solidarité de nouveau au centre du projet européen.
Oui, j'ai bouillé un peu d'abord parce que j'ai des micro-coupures sur l'émission, mais ça m'a permis de sauter un certain nombre d'étapes sur ce que racontait Monsieur Rivière, qui est évidemment faux s'agissant d'un nouvel impôt. On ne peut pas raconter n'importe quoi et prendre les citoyens pour des imbéciles. Mais Stéphane Séjourné a fait le boulot, je n'y reviens pas. Oui, je pense qu'il faut la solidarité, il faut du courage, il faut fixer des priorités, il faut se dire ce qu'on veut de voir visible pour les citoyens et ce qui peut être clairement et dans un calendrier rapide, être en mesure de réparer les dommages que nous avons vécus. Donc ça va effectivement nécessiter de faire un certain nombre de choix prioritaires. Nous pensons qu'il faut agir vis-à-vis de ce plan européen Green New Deal parce qu'il faut lutter contre le changement climatique, parce que ça a des impacts concrets. On peut faire valoir des actions concrètes liées au Green New Deal, comme par exemple la rénovation des bâtiments, comme par exemple les transports propres, les mobilités propres, l'investissement propre pour la lutte contre le réchauffement climatique. Donc il y a des choses extrêmement concrètes dont on peut tirer de cette crise et en termes de visibilité pour les citoyens. Je crois que c'est très important également de signaler qu'il ne faut pas qu'il y ait de conditionnalité au versement de ces fonds. On entend parler du retour du pacte de stabilité et de croissance qui a été écarté ces derniers mois. Nous ne voulons pas, avec mon groupe, d'autres conditionnalités que le respect de l'état de droit. Dit autrement, les pays, les gouvernements plus exactement, qui transgressent sur les libertés individuelles et sur le respect de l'état de droit dans l'Union, ne peuvent pas prétendre en même temps avoir un déversement de fonds s'agissant de leur politique. Et enfin, il faut associer également la dimension territoriale de ces fonds. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils arrivent au plus près des besoins en associant les acteurs locaux, territoriaux, qui ont une connaissance fine des besoins. Donc tout cela est une mécanique effectivement nouvelle, compliquée, difficile à mettre en place, mais qui est extrêmement enthousiasmante pour le monde d'après.
Jérôme Rivière, si ce plan de relance a pu être lancé par la Commission européenne, c'est qu'il y a eu quelques jours auparavant un petit aiguillon du couple franco-allemand, c'est une expression qu'on emploie en France et pas forcément en Allemagne, cette initiative franco-allemande où Angela Merkel et Emmanuel Macron avaient lancé l'idée d'un emprunt, non pas de 750 milliards, mais de 500 milliards. Ce couple franco-allemand, est-ce qu'il est, comment le jugez-vous son rôle dans cette relance de la construction européenne, car il faut appeler les choses par leur nom.
Avant de répondre précisément à cette question, je veux revenir quand même sur ce qui a été dit, puisque deux parlementaires européennes viennent de dire que je racontais des mensonges. Quand je dis que ressources propres, c'est de l'impôt européen, je me fais citer Thierry Breton, commissaire européen chargé de la politique industrielle, du marché intérieur, du numérique, de la défense et de l'espace. C'est lui qui, dès le lendemain de la présentation du plan de relance, a expliqué il fallait immédiatement imaginer un impôt européen. Donc la réalité, ce ne sont pas les parlementaires que nous avons en ligne, moi y compris, qui pouvons l'imposer. C'est la Commission aujourd'hui qui propose ce plan de relance. Ce n'est pas le plan de relance du Parlement européen. Et la Commission, à travers le commissaire chargé du marché intérieur, explique de façon honnête que ces ressources propres, ce seront de l'impôt.
Alors, vous ne voterez pas quand le Parlement européen devra se prononcer, vous ne voterez pas pour ce plan de relance.
Écoutez, j'attends de voir sa présentation complète et on essaye de faire les choses non pas avec démagogie, mais avec réflexion, mais tel qu'il est présenté, certainement pas. Je vous le dis encore une fois, c'est de l'impôt supplémentaire. Et comme Sylvie Chiolet vient de l'expliquer, elle aussi, elle nous explique que ce qui est important, c'est que les critères de distribution de ces sommes soient ceux de les critères classiques. C'est ce que j'expliquais précédemment. C'est l'Europe va donc court-circuiter les nations pour pouvoir mettre en œuvre sa politique. Donc qu'on le présente d'une façon ou d'une autre, il s'agit avant tout d'un objectif politique qui est de mettre un terme à l'État-nation et de faire en sorte que nous soyons regroupés dans une Europe fédérale. On peut le présenter comme on veut, on peut expliquer les choses avec des mots différents. La réalité, c'est celle que nous vivons aujourd'hui. C'est une volonté d'endettement de l'ensemble des citoyens de l'Union européenne pour que l'Union européenne vienne au plus près contourner l'État-nation, ce qui n'est pas du tout le projet que nous avons et que nous considérons comme étant utile.
Jérôme Rivière, Angela Merkel, la chancelière allemande, a dit lors d'une conférence de presse commune avec Emmanuel Macron que l'Allemagne ne pouvait aller bien dans une Europe qui irait mal. Est-ce que vous diriez que la France peut aller bien dans une Europe qui irait mal ?
Écoutez, l'Europe n'est pas l'Union européenne, l'Union européenne n'est pas l'Europe.
Je parlais donc de l'Union européenne.
Oui, voilà, mais c'est souvent la conclusion qui est faite. Je suis favorable à l'Europe. Jusqu'en 1992, avant le traité de Maastricht, l'Europe, la communauté européenne était quelque chose qui était un espace extrêmement positif pour les citoyens de cet espace. Ça nous a amené de la prospérité, ça a amené de la solidarité, mais c'était des accords entre États-nations. Depuis cette époque-là, nous sommes rentrés dans une vision fédéraliste qui a comme objectif, encore une fois, de contourner. C'est un projet politique très différent que nous combattons ouvertement. Je crois que c'est important de souligner cette différence de conception de l'Europe. L'UE n'est pas l'Europe.
Stéphane Séjourné, pour La République En Marche, après Jérôme Rivière, Rassemblement National, évidemment plus de solidarité, un couple franco-allemand qui a plutôt bien fonctionné, qui a été un peu à l'initiative de ce qui se passe en ce moment. Évidemment, j'imagine que pour La République En Marche, ça va dans le bon sens.
Oui, et puis je crois que en réalité, y compris le Parlement européen a joué son rôle dans la période. Le Parlement a voté une résolution, enfin deux résolutions avant que justement, il y a des propositions de la part de ce couple franco-allemand qui a été aussi un déclencheur, en quelque sorte, de pour la Commission, pour faire une proposition ambitieuse. Angela Merkel et Emmanuel Macron attendaient aussi, à un moment donné, que les formations politiques qui composent les majorités dans les États membres différents puissent se positionner. Ça a été le cas. On a vu d'ailleurs dans les résolutions qui sont votées au Parlement européen qu'une partie des partis politiques qui forment ces majorités ont voté pour ces résolutions qui sont ambitieuses, qui donnaient d'ailleurs des chiffres aussi importants, 1 000 milliards d'euros de déploiement sur des plans de relance. Donc il y avait un chemin pour trouver un accord. Ce chemin, il n'est pas encore totalement trouvé, mais on voit qu'on est quand même en bonne position. Et tous les aspects institutionnels de notre organisation collective au niveau européen sont respectés. Et là, je m'inscris en faux ce que dit Jérôme Rivière. L'organisation institutionnelle est démocratique. Le Parlement a voté, a fait des propositions. Le Conseil, au Conseil, les chefs d'État et de gouvernement représentent les États. Et d'ailleurs, c'est la lettre des traités. Il représente l'intérêt des États, donc l'intérêt des États est préservé, et puis les parlements nationaux vont devoir se prononcer sur ce plan de relance. Donc, on est dans effectivement un système institutionnel, et moi je ne suis pas un fédéraliste, je peux d'autant plus vous le dire, qui a fonctionné à plein, qui aujourd'hui, en tout cas pour ce qui nous concerne, nous satisfait dans les propositions qui sont mises sur la table. Il faudra regarder dans les prochaines semaines ce qu'il en est, mais je pense que tous les mécanismes, en tout cas institutionnels et politiques européens, ont bien fonctionné sur la partie plan de relance, et on peut qu'on s'en féliciter, en tout cas.
Sylvie Guillaume, Parti Socialiste, une nouvelle fois, l'Union Européenne a prouvé qu'elle ne progressait que dans les crises, fussent-elles tragiques comme celle du Covid-19.
Oui, c'est exact, mais moi je retiens qu'elle progresse et qu'il faudra aussi en tenir compte à l'avenir. Tout ce que nous avons accumulé comme expérience, les retards à l'allumage, le problème des compétences qui ne sont pas confiées et qu'on regrette ensuite de ne pas avoir confiées, tout cela doit nous faire aussi évoluer d'un point de vue institutionnel. C'est pourquoi il faut aussi préconiser avec le règlement des problèmes concret des gens sur la question en charge du chômage partiel. On n'a pas parlé de cette dimension qui est très présente, qui s'appelle SUR.
Oui, c'est un programme de 100 milliards d'euros qui finance le chômage partiel, partiel en Europe.
Exactement. Donc c'est très concret, très précis, et c'est une action puissante de l'Union que je crois les citoyens perçoivent ou doivent percevoir de façon plus positive. Ça, il faudra sans doute en tirer des conséquences institutionnelles. C'est pourquoi il faut grouper aussi avec cette réflexion sur la Convention sur le futur de l'Europe qui est en train de se mettre en place pour trouver des solutions et mieux fonctionner à l'avenir, faire en sorte qu'on ne rejette pas systématiquement sur l'Union européenne ce qui ne fonctionne pas quand c'est des propres défaillances nationales, qui est quand même un sport national assez répandu.
Jean Rivière, cette Europe qui ne progresse que dans les crises, c'est tout de même une réalité. Jean Rivière, Rassemblement National.
Stéphane, ces journées, parler de l'aspect démocratique. On fêtait le 29 mai dernier, donc il y a quelques jours, le 15e anniversaire de la dernière consultation concernant l'Europe pour laquelle les Français ont été interrogés. C'était le traité constitutionnel. Il a été rejeté à l'époque, il y a 15 ans, donc par près de 55% des Français. Deux ans après, Nicolas Sarkozy, dans une opération avec le Parlement français, a fait adopter le traité de Lisbonne, qui était finalement la continuation et l'adoption de ce que les Français avaient rejeté. Donc ça n'a rien de démocratique. Et on voit bien d'ailleurs que les gouvernants, les différents dirigeants qui sont succédés ont tellement peur de la réponse des Français, qui serait une réponse très probablement négative à une demande de plus de ferraille, ne les consulte pas. Donc oui, effectivement, à chaque fois qu'il y a une crise, l'Europe en profite pour bousculer les lignes et imposer un calendrier idéologique qui n'a jamais été validé par les Français. C'est quand même l'essentiel, si vous voulez, c'est que que des parlements se prononcent, que des représentants et que la démocratie représentative soit le fait du quotidien, c'est une bonne chose, mais sur des sujets aussi essentiels, avec des basculements fondamentaux comme celui qui est en train de se produire à l'occasion de la création de cet impôt européen, je pense qu'il serait indispensable de consulter en direct les citoyens, ce qu'aucun gouvernement ne veut faire, parce qu'ils connaissent la réponse, et les Français, comme aux Pays-Bas, comme dans très nombreux pays, regardez un petit peu les sondages en Italie sur la façon dont ils perçoivent aujourd'hui l'Union européenne, et non pas l'Europe, l'Union européenne.
C'était l'Union européenne, Jérôme Rivière, avant ce plan de relance, évidemment, ce qui va peut-être quand même changer complètement la chose et la perception des Italiens et peut-être du reste des Européens.
Vous savez, je ne crois pas dans l'argent magique. Et ce qui est dépensé aujourd'hui devra être remboursé demain. Je suis par ailleurs dirigeant d'entreprise et je peux vous dire que l'argent magique, ça n'existe pas.
On verra.
Nous explique aujourd'hui qu'on a trouvé... Mais non, mais ça, c'est pas on verra. Il y a l'histoire nous l'apprend. Vous n'avez pas de création monétaire sans qu'à un moment, quelqu'un vienne payer cette création monétaire. Donc elle se paye soit par du remboursement, soit par l'affaiblissement considérable de votre monnaie. Alors l'idée qu'aujourd'hui nous soyons sortis, c'est un peu comme ce débat. On était sortis de l'histoire lorsque le mur de Berlin est tombé, elle s'est rappelée à nous. On ne sort pas de l'économie réelle. L'économie réelle aujourd'hui, c'est qu'il faudra les rembourser ces milliards.
Stéphane Séjourné, alors évidemment, il faudra peut-être un jour rembourser cette dette, à moins qu'on ne l'annule. C'est aussi le point de vue de certains économistes. Enfin, pour l'instant, cet argent n'est pas emprunté sur les marchés. Donc la question du remboursement viendra évidemment un peu après. Est-ce que l'Europe se sentira plus forte après dans le monde face à la Chine, face aux États-Unis qui ont aussi des plans de relance? Est-ce que l'Europe se sortira un peu mieux de cette crise qui est évidemment terrible, qui a paralysé pendant 2 mois, 3 mois toutes les économies européennes et les économies mondiales, notamment grâce à ce plan de relance évidemment.
Non, mais je l'espère évidemment, et d'ailleurs c'est tout l'intérêt d'avoir un plan de relance commun. On voit bien que face à cette crise qui était totalement mondialisée, dont d'ailleurs les conséquences sont les mêmes d'un pays à l'autre, le repli sur les frontières nationales européennes n'ont pas de sens. Et on se rend compte qu'il faut plus de coordination. On a eu beaucoup de couacs, hein, dans cette crise, avec des fermetures de frontières qui n'étaient pas coordonnées, etc. Tout ça, il va falloir quand même réfléchir aux conséquences derrière les enseignements de la crise qu'on mettra en place. Je pense que la conférence sur le futur de l'Europe est un élément de réflexion, à mon avis, sur notre fonctionnement institutionnel européen qu'il faudra réfléchir. Le Parlement européen, pour le coup, désignera sûrement des représentants. Il y aura des collèges de citoyens qui vont réfléchir à ça dans les prochains mois. En tout cas, c'était une proposition qu'on portait aussi pendant la campagne des européennes. Donc je mets beaucoup d'espoir dans les enseignements de la crise, parce que tout n'a pas été parfait dans cette gestion. Et évidemment, face au bloc américain et à la Chine, il faudra de toute façon des réponses collectives dans les mois qui viennent, y compris pour assurer une forme de souveraineté européenne. On l'a vu qu'un certain nombre d'industries nous manquaient en période de crise, et que quand les frontières se refermaient, on se retrouvait peut-être démunis sur un certain nombre de secteurs d'activité qui étaient considérés comme accessoires et qui sont considérés comme essentiels dans une crise. Donc tout ça est aussi une remise en cause. Je ne dis pas que tout a été bien géré, mais par contre, dans une gestion de crise, le post-crise est tout aussi important que la gestion de crise en elle-même, et il faudra se réinterroger. Et je crois que c'est un peu la volonté des institutions, y compris des parlementaires européens. Donc là-dessus, il faudra suivre dans les prochains mois aussi.
Merci Stéphane Séjourné. Sylvie Guillaume, Parti Socialiste, Jérôme Rivière, Rassemblement National, et Stéphane Séjourné, La République En Marche. Merci tous les trois d'avoir été au Carrefour de l'Europe, et merci à tous les 6 d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation Guillaume Munier, en partenariat comme chaque semaine avec Courrier International. Sur la page de l'émission, des infos sur nos invités. Pour écouter ce Carrefour de l'Europe en podcast, le site rfi.fr, rubrique podcast justement. Vous pouvez bien sûr vous abonner via Google, Apple ou Deezer. On reste en contact bien évidemment via Facebook et Twitter. Daniel Desescales, où que vous soyez, en France, ailleurs, en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir. Géopolitique.